Il va crever.
La variante avec un mot en plus.
Il va crever. Enfin.
Très bien. Ta 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 la la.
Il va crever.
Ta 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 la la.
Olé. Olé.
Encore. Ta 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 la la.
Olé.
Olé.
Dans une salle carrelée, des chaises en plastique sont alignées contre un mur. 7 personnes, 4 femmes et 3 hommes, se tiennent debout en arc de cercle dans l'espace nu. Elles se regardent en exagérant des mouvements de bouche. Elles se frappent le torse avec les poings. Un homme dans les 70 ans, avec une chemise rose pimpante, se penche vers son voisin qui tambourine avec humour sur son ventre bien rebondi.
Par choc.
Il se tapote les fesses. Irène a des cheveux mi-longs blonds et ondulés. Une frange cache son front. Elle a un regard soucieux, traversé au gré de ses enthousiasmes de lueur enfantine. Elle a une soixantaine d'années. Michel, la soixantaine, lui aussi, est tout en dynamisme. Chemisette ciel, jean noir, ses cheveux clairsemés sont coiffés en arrière. Raquel a dans les 30 ans. Gracile, déliée, elle porte les cheveux courts et des bottes de cavalière. Bernard est un grand barbu d'une soixantaine d'années. Des bretelles sont tendues sur son ventre. Son bras droit est raide, sa main rentrée vers l'intérieur. L'homme à la chemise rose, c'est Rémi. Il a 70 ans, une énergie et un humour de jeune homme. Simone a noué une écharpe aux couleurs douces autour de son cou. C'est une femme élégante aux cheveux argentés. Marie-Chantal a une cinquantaine d'années, un visage attentif et une attitude réservée. Elle porte des lunettes qu'elle remonte nerveusement. Des yeux vifs dans un visage jovial ponctué par une belle moustache blanche, Michel R. est un fringant septuagénaire qui parle beaucoup avec la main gauche. L'autre est immobilisé par l'hémiplégie.
Plein d'activités, hein, politiques, syndicats, plein. Et puis, après, c'est l'ombre. Et puis, ça mue, vite. Et puis, conscient, enfin, mais, bon, après... bon, du cute, allô, et puis la parole, mais de 9e.
Oui, donc moi je suis l'épouse de Michel et la secrétaire de l'association Groupe des aphasiques d'Île-de-France. Oui, voilà. Oui, oui. Donc quand Michel a eu son AVC, c'était en 96, il avait 50 ans.
Oui.
Et bon, il avait beaucoup d'activités. C'était après, c'était fin 95, après les grandes grèves.
Voilà.
Et un soir, il est rentré, il a mangé, d'un seul coup, il ne pouvait plus parler.
Voilà.
Donc j'ai tout de suite pensé que c'était grave, parce que quand on ne peut plus parler, d'après moi, c'était grave. Donc j'ai appelé le SAMU qui est venu tout de suite, on l'a emmené à la salpêtrière. Ouais. Moi, je les ai rejoints tout de suite. Ils pouvaient reparler, ils m'ont dit, voilà... il reparle, là, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et dans la nuit, on m'a appelé en disant son état s'est aggravé, il est paralysé du côté droit et il ne peut plus parler du tout. Mais après, à la salpêtrière, moi, je ne sais pas, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui, à la fois Philippe Van Écoute et le professeur Ancurel qui dirigeait le service des urgences vasculaires... qui m'ont dit des mots qui m'ont toujours encouragée.
Ah oui.
Qui m'ont dit, voilà, avec la plasticité du cerveau, il peut reparler. Et moi, il peut reparler. J'ai compris, il va reparler.
Ah oui, ah oui. Ah oui.
Michel R. est face au groupe qui le regarde attentivement. Il est debout, les jambes écartées à la largeur du bassin. Il avance brusquement la tête en écarquillant les yeux. Les autres l'imitent. Il se redresse. Il monte son bras valide, paume vers le ciel et joue un rebondi dans sa main. Il relâche le mouvement. Il avance la tête et lève la main. Il se caresse la joue. Il pointe l'index. Relâche. Il pose la main à plat sur sa poitrine. Il attrape sa main raide avec sa main valide et entrecroise ses doigts. Il lâche sa main. Il recroqueville et agite ses doigts valides. Il rabat brusquement sa main.
Dispersion.
Pas facile, hein, parce que lent. Et puis un an, mars.
Oui, hein. Après, t'as remarché. Hein.
Oui. Alors, là, merveilleux. Après, la parole, progressivement, mais lentement. Longtemps. Hein.
Oui, très long. C'est très, très lent. Hein.
Ah oui. Oui.
N'empêche que les journées sont longues. Dans la journée, tout le monde travaille, donc les gens sont quand même un petit peu seuls. Hein.
Eh oui.
Donc moi, j'avais vu une pub à la Salpêtrière pour le GAIF, et j'avais vu qu'il faisait du théâtre.
Ah oui.
Et j'ai dit à Michel, mais c'était un an après ça. J'ai dit, tu vois, tu devrais essayer d'aller au théâtre, parce que ça te ferait sûrement du bien. Alors il a dit non.
Non.
Et puis, finalement, j'ai écrit à la comédienne qui s'occupait du groupe à l'époque, et on y est allé. Et bon, au début, il n'était pas enthousiaste, mais il a trouvé que c'était pas mal, qu'il allait continuer. Oui. Et ce qui lui a fait beaucoup de bien... c'est le deuxième spectacle qu'on a fait à Saint-Denis, dans une petite salle sous le théâtre Gérard Philippe. Je crois que ça a beaucoup compté pour lui.
Mais les vestes. Alors, moi,
elle avait mis un petit gilet à tout le monde.
Voilà.
Vous savez, les gilets de costume de couleurs différentes. Oui. Et Michel, comme il était assez costaud, j'avais un gilet qui était trop petit.
Bah oui, alors ça peut pas.
Et il a passé une grande partie de la petite pièce qu'ils avaient à jouer à montrer aux spectateurs que son gilet était trop petit.
Bah oui. Hein.
Et ça a beaucoup fait rire les gens.
Ah oui.
Et à la fin, dans la salle, il y avait pas mal d'orthophonistes parce que c'était vraiment le début du théâtre. Et les orthophonistes sont venus lui dire « Ah, c'est bien, vous jouez bien, vous avez une présence, vous voyez ?» Et ça, ça lui a fait beaucoup de bien.
Parce que
il retrouvait un lien social, quoi. Il existait, il avait fait quelque chose que les gens aimaient. Et c'était important.
Ah oui.
Et du coup, on a continué le théâtre.
Alors... Dispersion. Remplissez l'espace.
Manuel est jeune, les cheveux noirs en bataille, l'allure décontractée des grands timides.
Au moment où vous y attendrez de moi, je dirai 5.
Il propose en même temps qu'il cherche. Il dit en même temps qu'il écoute.
Allez.
En marche.
Je suis Manuel, j'ai 30 ans. Donc, comédien de formation. Donc je suis engagé auprès du GAIF en tant qu'animateur de cet atelier théâtre.
3.
Le plateau, pour les comédiens comme pour les comédiens du GAIF, est un endroit où se libérer, où se montrent les uns aux autres, pour leur plus grand plaisir d'ailleurs.
Numéro 4.
Certains sont tout à fait capables d'apprendre et de lire un texte, tandis que d'autres, non. Je dois en tenir compte pour le spectacle, pour que chacun s'amuse, surtout. Ce ne soit pas les uns qui regardent les autres jouer, et pas l'inverse. Dans mon atelier, donc, j'ai commencé par travailler le mime, qui s'est imposé comme une évidence, pour des raisons pratiques. Puisque les exercices de parole, de voix, d'improvisation parlée, étaient très difficiles pour la majorité du groupe, étant donné que tout le monde n'est pas égal dans ce handicap, avec l'aphasie. Donc le mime s'imposait, et c'est avéré un processus extrêmement, extrêmement créatif, Après, quand j'ai dû choisir des textes ou en écrire, c'était en fonction donc des envies de chacun et des thèmes qu'on allait aborder ou qu'on avait envie d'aborder. En partant de jeux, puisqu'il fallait avant tout, derrière tout ça, un amusement et une envie.
On continue. Je suis le miroir. Vous faites tout ce que je fais.
Les participants se plaquent une main sur la tête. Tapote. Arrête le mouvement en se saisissant le poignet avec l'autre main. De l'index, il gourmande la main tapageuse qui cogne la joue. Bernard, avec son bras raide, organise le mouvement différemment. Les mains en visière sur le front, le groupe scrute le large. La tension dans le visage et le cou de Bernard racontent la même histoire sans l'usage des mains.
Dans le théâtre, tout repose sur de l'interaction. Et je sais par expérience que de manière générale, le théâtre est un moyen de se libérer, est libérateur. Pas besoin d'être bon au théâtre. L'essentiel est d'interagir avec les autres, de briser des barrières, repousser des limites qu'on ne se connaissait pas. Et c'est ce qu'ils font ici, c'est ce que j'espère qu'ils font ici. C'est un travail qui repose énormément sur l'humain, c'est vrai. On n'a pas d'ambition donc d'emmener un spectacle extraordinaire sur une grande scène, ni de repousser les limites de l'art théâtral, ni de mener une thérapie à fond. On est juste là pour partager. Le spectacle de fin d'année du groupe aura lieu le 21 juin à Vincennes.
On s'est aperçu que petit à petit, moi je trouve que ces ateliers, ce qui compte le plus, c'est que les gens passent un bon moment. Vous voyez, qu'il y ait des moments joyeux les gens s'amusent, soient contents et sortent de l'atelier en disant « Oh, c'était bien, qu'est-ce qu'on s'est amusé !» Moi, ça m'a beaucoup frappée parce que comme j'allais conduire et chercher mon mari au théâtre, donc j'attendais à la porte et j'attendais à une époque avec une maman qui conduisait sa fille qui avait eu un AVC, qui avait 45 ans, qui était très handicapée. Et un jour, elle m'a dit « Si vous saviez comme je suis contente de l'entendre rire comme ça, parce que depuis son AVC, elle n'a jamais ri. » Et à cette époque-là, il sortait du théâtre, Irène, elle disait toujours « Oh, on s'est amusé !» Et c'est vrai que les aphasiques ont très peu l'occasion de s'amuser quand même. Donc ça, c'était très important. Même ceux qui sont tristes se trouvent un petit peu entraînés. Moi, j'ai l'impression que c'est la chose la plus importante. Après, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens sont amenés à faire des petits progrès en venant régulièrement. Je ne dirais pas que ça leur fait faire des progrès pour le langage et tout ça, je ne sais pas ça. Mais je pense que...
Mais c'est bien, c'est bien.
Ils sont quand même obligés d'être attentifs, de réfléchir, et ça ne peut que leur faire du bien.
Les danseurs sont assis en cercle. Christine montre une vague qui roule entre bassin et buste. Gilbert, à côté d'elle, explore le mouvement. Christine initie la vague et s'incline vers Gilbert pour lui passer le relais. Il engage le cou et la tête dans le mouvement qui déferle sur son voisin, qui à son tour transmet à Michel, à Toshi, à Simone, à Rose, jusqu'à Christine qui se lève dans l'élan.
Il faut carrément s'appuyer sur un pied pour pouvoir aller là-bas.
Épaule, genou.
Ouais, vas-y Michel, vas-y. Grand Gilbert, grand, immense.
Christine passe la main sur l'avant-bras de Gilbert dans un contact appuyé. Il presse la paume de sa main sur celle de Marc, qui passe à son voisin, qui transmet.
Michel, Marc,
à mesure le contact s'étiole.
Vas-y Gilbert, grand. Oui, viens ici, là-bas, oui, oui.
Alors, je m'appelle Gilbert, j'ai 63 ans. J'étais professeur d'anglais dans un collège de la région parisienne, à Montreuil pour être plus précis. En juin 2011, il m'est arrivé un AVC à la suite d'un entraînement qui me semblait pas trop intensif d'ailleurs, de jogging dans le bois de Vincennes. J'ai croisé une foule et puis pas mal de bruit. Et là, j'ai eu quelqu'un est venu me prendre par le bras me disant que je semblais avoir un malaise. Je ne le sentais pas, ce malaise-là, mais il m'a amené jusqu'aux urgences, aux urgences de la course. Ils m'ont fait le questionnement d'usage. J'ai pu y répondre. Je suis rentré chez moi. Et c'est dans l'après-midi que j'ai fait un malaise. Mon épouse a appelé le SAMU. Et voilà. Après le SAMU, je me suis sorti du coma hémiplégique. Hein. Pour le moment, ma main gauche ne répond pas. Je remarche, mais d'une façon assez heurtée. Mais comme vous pouvez voir, j'ai encore toute ma parole. Hein. J'ai cette chance-là par rapport à mes amis aphasiques.
Gilbert a une cinquantaine d'années. Ses cheveux poivre et sel sont coupés très courts. Il porte des lunettes à monture noire. Ses sourcils sont épais, il est rasé de près. Ce jour-là, il porte un pull à col camionneur d'un beau bleu sombre. Dans son salon, le soleil filtre en contre-jour à travers un voilage. Le mur du fond est couvert de livres. Des petits objets, des photos, des souvenirs de voyage égaient les rayonnages d'une bibliothèque en bois miel.
J'ai beaucoup de chance. J'ai des amis et voisins qui sont très, très proches et très assidus. Et j'ai eu le soutien là, j'ai eu le soutien d'un cousin, de ma famille aussi, surtout de Geneviève, mon épouse. J'ai eu des intervenants, autant les orthophonistes que les kinés, d'une énergie et d'une gentillesse incroyable, quoi. Hein. Par contre, quand je suis revenu ici, seul, avec Geneviève, il y a eu un moment où j'étais un peu perdu. Comme j'avais plus vraiment d'activité pour structurer ma semaine. Et une après-midi, par chance, j'ai croisé le chemin des responsables du club des aphasiques sur Vincennes. Et j'ai rejoint et la chorale des aphasiques et des séances de danse-thérapie avec les aphasiques aussi. Ce qui m'a permis de renouer des liens sociaux très étroits avec eux. Et d'élargir ma vie quotidienne. Quoi. On fait pas mal de sorties aussi avec le club des aphasiques. On est allé au musée de Meaux, on est allé à la Malmaison, on est allé au musée de la musique à Paris. Et immédiatement, on a eu un contact extrêmement chaleureux avec tous les copains du GAIF. Je me permets de dire copain parce qu'on n'a pas d'autres termes à dire. Je peux dire aphasique aussi, mais pour moi, ça ne veut rien dire entre nous. Quoi. Enfin, si, c'est le fait qu'on se retrouve entre nous. Hein. Mais c'est des gens extrêmement dynamiques et puis de tous les âges. Hein. J'ai vraiment l'impression que les énergies qui sont retenues dans nos corps un petit peu maladroits réussissent à se conjuguer et à s'exprimer entre nous, se conjuguer entre nous. Hein. Les rires, j'ai même réussi dans une séance de danse-thérapie, à sauter en criant. C'était un vrai bonheur. C'est très infantile, mais quel bonheur quand on est un peu coincé dans son corps. Hein. Et je crois que pour les autres, c'est à peu près la même chose. En plus, il y a le fait qu'on se voit évoluer les uns et les autres. On voit, Daniel est encore en fauteuil, mais souvent elle se lève quand même et elle fait quelques pas. C'est la même chose pour Henri. La dernière fois, Henri s'est levé et puis a commencé à marcher dans la salle. C'est un bonheur. On voit aussi les copains qui sont capables de vous dire bonne année ou bonjour, alors qu'ils ne l'étaient pas, ils n'étaient pas capables 3 mois avant, quoi. On se voit, puis moi qui suis très focalisé sur ma main, la première fois où j'ai vu Bernard nouer ses chaussures, je me suis dit que peut-être un jour je pourrais le refaire aussi. Ça m'a ému.
Hein? Parce que le fait de nouer vos chaussures, c'est un geste auquel vous n'avez pas le droit aujourd'hui.
Et non. Et non. Mais bon. Ça va revenir. Je vois que Bernard commence à récupérer un petit peu la sienne. Donc ça me donne du bon au cœur. C'est positif sur tous les points. Quoi.
C'est pas très fort, hein. Il y en a quand même qui sont moins forts.
Dans une salle éclairée au néon, les participants à l'atelier danse circulent et se croisent dans l'espace. Christine, leur professeur, impulse une marche rebondissante, le port de tête tenu. Les bras s'accrochent et entraînent des tours. Christine prend la main inerte de Michel. Il sourit et la suit en arrondissant son autre bras. Elle pivote, saisit son autre main, leurs bras s'entrecroisent. Les yeux dans les yeux, ils font jouer leurs bras d'avant en arrière, en poussant et tirant. Le mouvement prend de l'ampleur. Michel lâche une main de Christine et la fait tourner. Elle s'incline en révérence.
Oh, ouais. Bravo, 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 bravo.
Très bien, beau danseur.
Christine, oui, elle a un petit accent vaudois qui est assez sympathique. Elle est extrêmement dynamique, très gracieuse. C'est une danseuse classique. Elle a un déplacement qui est un bonheur et une... aussi elle est à l'écoute et puis elle a eu une formation pour travailler avec des aphasiques et elle est capable aussi de vous restreindre, de vous demander de vous restreindre pour les gestes et elle sait que ça peut être comment dire, pas douloureux mais comme ça peut amener une raideur plus importante plus tard, hein. Elle est très douce dans le ton qu'elle utilise. Elle nous amène une musique classique qui nous aide à pencher notre imagination pour essayer de construire nous-mêmes des chorégraphies.
Donc, je m'appelle Christine et je suis comme une entité, je me présente en tant que danseuse. Et ma tâche, en fait, profonde, c'est de faire danser les autres. Et danser dans le sens rythmique, dans le sens artistique, et surtout d'ouvrir son cœur pour pouvoir se laisser aller dans tout ce qui est expression corporelle et ne pas bloquer au niveau du langage. Ces ateliers d'art-thérapie ou de danse-thérapie sont là pour en fait des personnes en difficulté diverses. Bon, là en l'occurrence, c'est des problèmes d'expression, c'est des problèmes de motricité. On rencontre beaucoup de personnes hémiplégiques et donc ces personnes en difficulté, justement, de les mettre en état de danse. Parce que même s'il y a thérapeutique dans danse-thérapie, en fait, la thérapie ne guérit pas forcément ou n'est pas là pour guérir, mais est là pour mettre les personnes en état différent de leur quotidien, de tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté dans le soin qu'ils ont souvent quotidiennement ou de temps en temps, et de sortir en fait les gens de leurs habitudes.
Tenez-vous droit. Les ischios bien en siège. Les petites pattes de fesses bien ancrées, les deux à la égalité.
Christine est assise parmi les danseurs et danseuses du groupe. C'est une femme gracile et vive. Ses cheveux longs sont noués en chignon. Elle porte souvent des pantalons noirs avec des ballerines de danse, des gilets sans manches sur des chemises fluides.
Christine. Oh, ouais. Chris.
Christine.
Michel, l'autre jambe.
Elle allonge loin devant le bras et la jambe gauche.
Tine, vas-y de chez Tine. Tine. Allez, Rachel, Tine. Et c'est
le groupe reprend le geste.
Tine. Encore plus Tine. Tine. On sourit. Tine. Oui, c'est bien.
L'allongement va jusqu'à la pointe du pied, jusqu'au bout des doigts.
Attention, Rachel, hein. Je regarde. Hein.
Super. Et aussi, c'est l'identité. Et l'identité, c'est quoi? C'est le prénom. C'est qui je suis, qui je suis maintenant, et pas dans 2 ans ou il y a 2 ans. Surtout, c'est le présent qui compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun arrive d'un endroit différent, de ses problèmes, de l'extérieur. Et on arrive ici, on forme un groupe, toujours le même. Et ça sert aussi à retrouver un moment qui est différent du quotidien et où les personnes peuvent oser s'exprimer, peuvent être là, se sentent elles-mêmes, se sentent comme si elles habitaient chez elles-mêmes et elles reprennent en fait... possession de leur corps et pas seulement de leurs problèmes, mais aussi de leur imaginaire, de leur corps, pour accueillir leurs expressions diverses. Donc d'avoir une espèce de matrice contenante. C'est ça l'avantage du groupe.
Très bien, Marc.
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 Très
bien. Toshi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des endroits où nous sommes ensemble, donc sécurisés. Chaque pas est incertain. Hein, j'ai peur à chaque pas, à peu près, quand je marche. Ce qui fait que quand je peux marcher, sachant que je suis surveillé et avec des amis, que ce soit pour la chorale ou autre, je me sens... extrêmement détendu, c'est très très précieux. Là, je vais aller chez l'orthophoniste, c'est assez loin et je suis toujours un petit peu inquiet. Je sais que je peux le faire, mais je suis toujours sur la défensive quant à ça.
C'est mon comportement qui fait que aussi, il faut réussir à mettre en confiance. Et je pense que le mot confiance, c'est un mot qui peut déclencher beaucoup de choses. Parce qu'au début, dans tout groupe humain, eh bien, il y a la peur du regard, comme vous disiez, il y a la peur de ce que va penser l'autre, de ce que je vais penser moi, de moi-même. Parce qu'on a peur de soi-même, souvent. Et puis, il y a quelque chose qui fait, donc, ce quelque chose. Donc, il y a tous ces jeux, tous ces mises en situation, tout ce côté, l'art, tout simplement. Si on arrive à rentrer, en fait, dans ce jeu, dans ce côté, dans cet état artistique, dans cet état d'esprit, eh bien, c'est qu'on a confiance. Et la confiance fait que, on a confiance en soi, donc on s'exprime, donc on est plus satisfait. Et c'est pas facile de l'obtenir, cette confiance, hein. Et parfois, quand vous travaillez avec des personnes qui sont très ancrées en elles-mêmes, qui sont prostrées, rien que déjà un regard que cette personne échange avec vous, rien que déjà ça, c'est déjà gagné. Ou échanger avec le groupe aussi. Parce que parfois, avec le danse-thérapeute, ça va fonctionner. Mais encore faut-il que entre les membres du groupe, il y ait un rapport. Il y ait peut-être même du toucher. Qu'il y ait... Ça, c'est déjà encore plus que le regard. C'est déjà le stade suivant. Et puis après, c'est de danser, c'est de jouer, c'est de... d'être ensemble, en fait. Mais pour ça, c'est vrai, la condition première, c'est de mettre en confiance le groupe. C'est cette matrice contenante du groupe qui permet aussi de le faire. Donc, c'est pas seulement le danse-thérapeute, mais c'est aussi les autres. C'est toute l'énergie, en fait, qui est dégagée de ce moment.
Dans la salle éclairée au néon, les danseurs sont debout en cercle. Christine approche de ses lèvres le dos de sa main. Elle y dépose un baiser. Elle allonge le bras vers le centre du cercle en présentant sa paume. Les danseurs proposent le mouvement retour, la main qui pivote tandis que le bras remonte vers la bouche. Un baiser, le bras qui s'allonge vers le centre du cercle entraîne le buste, qui entraîne un pas vers l'avant.
J'ai ta main, c'est bon.
le cercle se resserre. Les bras montent vers le ciel. Les doigts qui remuent très doucement conduisent la descente.
Merci beaucoup. Vous étiez brillant.
Je suis Michel. J'ai presque 65 ans. J'ai eu une aphasie le 5 février 2002, donc tout près. Et au début, je n'étais plus rien. Je voyais bien quand même. J'y suis allé à l'hôpital 3 semaines. En 3 semaines, je suis de nouveau presque 100%. Pour au moins le point de vue du corps. Mais au point de vue de mémoire, de parler, toutes les choses que j'avais dans ma tête, par exemple, je parlais 6-7-8 langues, plus rien. Donc j'étais entre un bonhomme pas trop mal et de l'autre pratiquement rien, si vous voulez. Donc on peut faire un coup de balai surtout et on va reprendre, entre guillemets, nouvelle vie. Alors Marion, mon épouse, voilà, et elle fait 100% de, quand j'étais à l'hôpital et après, et puis elle a fait tout ce qu'il fallait, en particulier au GAIF, et elle a téléphoné très rapidement. Et GAIF faisait une chose bien, les gens qui étaient aphasiques, on leur donne quelque chose qui reprend dans la vie, si tu veux.
Des ateliers ?
Oui, des ateliers.
En général, je donne des...
Donc, atelier d'écriture du mardi 3 février 2015, à partir de poèmes de Rimbaud. Objectif, se souvenir, imaginer. La poésie de Rimbaud est souvent écrite en prose. Le poète a souvent recours à ses souvenirs. Il nourrit les souvenirs de son imagination. S'il se détache des règles classiques de la versification, il va conserver certaines caractéristiques comme le rythme, les répétitions. On va essayer d'écrire à partir de 2 poèmes de Rimbaud et on va travailler sur la répétition et l'imaginaire ou la part de rêve.
Elle est super, la dame. Vraiment, on l'a connue avant de la voir pour intervenant, mais on l'avait vu par. On avait été au théâtre. Le texte était de son père, qui était aphasique depuis très longtemps. Et donc, au bout de 4 années, elle a dit : j'aimerais, avec Gaïf, faire un. L'atelier, voilà, et à partir du moment où elle est venue, ça veut faire 2 ans, c'était impeccable.
Donc, Claudine, j'ai été enseignante, je m'intéresse au théâtre et à l'écriture depuis longtemps, j'ai suivi les ateliers d'écriture avec Elisabeth Bigne, et après j'ai continué à écrire. À la fin de ma carrière d'enseignante, j'ai eu un poste de détachement dans la culture, donc je me suis de plus en plus orientée vers le théâtre et l'écriture. Et maintenant que je suis retraitée, j'anime des ateliers d'écriture, surtout en milieu associatif. Donc, qu'est-ce qu'un atelier d'écriture ? L'atelier se déroule souvent comme suit : une situation d'écriture avec consigne et motivation, un temps d'écriture, chacun produit individuellement un texte, un temps de lecture, chacun lit ce qu'il a écrit, et enfin retour, dialogue et réaction collective. L'animateur joue le rôle suivant, il motive, fait des propositions qui vont provoquer une dynamique, il rassure et aide, il garde à l'esprit que l'écriture est une démarche individuelle, il ne porte pas de jugement de valeur, il tente de devenir un peu plus exigeant quand la confiance est installée dans le groupe. Oubliez l'interdit, chassez ce qui peut avoir fait blocage.
répondre au désir de mettre des mots sur une impression, lire, s'entendre dire, écouter les autres, autre manière de dire et d'écrire, se relire autrement, voilà idéalement l'objectif d'un atelier d'écriture.
Dans une salle surmontée d'un dôme de verre, des photos de scènes de rue sont exposées sur les murs. Les participants à l'atelier d'écriture sont assis autour de petites tables disposées en U. Lunettes sur le nez, visage concentré, ils cherchent. L'animatrice, Claudine, est assise au centre. Elle regarde chacun avec attention.
Elle a une cinquantaine d'années, les cheveux noirs coupés au carré, des lunettes rouges.
J'ai donc été formée aux ateliers d'écriture par Elisabeth Bigne. C'était sa démarche, puisqu'elle souhaitait, elle, au départ, former des jeunes qui étaient en rupture par rapport au lycée et les amener vers la littérature. Donc, au début de chaque atelier, et en lien avec la consigne, il y avait toujours la lecture d'une œuvre littéraire, même un court fragment. Donc, je continue cette démarche. Je pense qu'effectivement, c'est important d'apporter à ces personnes une parole poétique. Et le fait qu'ils lisent, ça fait aussi partie de la tradition, enfin de presque toutes les écoles dans les ateliers d'écriture. Et ça m'a permis aussi de constater avec les aphasiques que certains écrivent, construisent très bien des phrases à l'écrit et ont du mal à les lire. Et que d'autres lisent une phrase et quand je regarde leur feuille, il manque des mots de cette phrase. C'est-à-dire qu'ils la verbalisent, par contre, ils ont oublié souvent des mots de liaison, en fait. C'est souvent les mots de liaison qui pêchent, voilà.
Les doigts noueux d'Irène sont serrés sur son stylo Bic. Elle trace des lettres avec application, lentement, une par une. Des phrases qui commencent par « je suis » sont raturées. Elle porte un collier de nacre sur une blouse fleurie de rose. Ses cheveux blonds longs sont retenus en arrière, ses lèvres sont crispées. Irène jette des regards d'écolière punie à ses voisins et hoche la tête. Elle reprend son stylo et réfléchit. Elle trace des mots goutte à goutte, lettre par lettre. Claudine la regarde. Elle s'apprête à lire son texte.
Ce sont des personnes qui sont dans une association où il se passe beaucoup de choses, où ils se rencontrent dans différents ateliers, dans différentes activités. Ils sont très à l'écoute les uns des autres. On sent une écoute et on sent qu'il n'y a absolument pas de jugement. Et je crois aussi que le fait que dans chaque atelier, ça c'est la démarche de tous les ateliers, on lise son texte, on est aussi en situation d'écoute de l'autre, donc ça crée du lien.
Sur une page blanche, Michel écrit « Il y a ». Il suspend son geste. Sa main scande le rythme de la phrase qui se fait jour.
Bon, heureusement, par la parole, on peut avoir un peu le mémoire, parce qu'on n'a pas, presque pas, mais moi, je fais rien, ça... Moi, je me tais pour qu'ils aient leur parole. Sinon, moi, je peux. C'est un moyen pour nous de voir quelque chose de présent, l'écriture. L'imaginaire, c'est 100%.
Ben, j'ai constaté que. Ils avaient de plus en plus envie d'aller vers ça, vers une écriture de l'imaginaire, parce que quand j'ai proposé des exercices un peu systématiques avec des consignes d'écriture rigoureuses, ils s'en échappaient beaucoup plus vite. Ils avaient du mal à suivre cette consigne, ils avaient un désir d'écrire, de raconter. Donc je crois que c'est ce qui les intéresse maintenant, vraiment. Avant, peut-être qu'ils ne savaient pas. Là, c'est ce qu'ils ont envie de faire, oui.
Se raconter, ça veut dire quoi?
Alors, se raconter, j'ai remarqué que quand on touche à tout ce qui a à voir avec le souvenir, ils sont vraiment un désir d'écrire et quand ils ont souvent exprimé le fait que c'est ce qui leur plaisait dans cet atelier, ce souvenir, voilà.
Ce souvenir, c'est l'avant AVC ou c'est l'après AVC?
C'est l'avant AVC, il parle de l'enfance beaucoup. Oui. Mais l'écriture a souvent à voir avec l'enfance.
Alors, édito. L'aphasie est un combat difficile et singulier. Au début, on croit parfois le gagner facilement, et puis, jour après jour, on découvre ce que sera très long, et qu'il nous faudra beaucoup d'énergie. Dans ce combat, on a évidemment besoin des autres. La famille, les amis jouent un rôle essentiel. Ils nous poussent à avancer, à nous dépasser, ils nous encouragent et nous aiment. Mais nous avons aussi besoin des autres aphasiques. Au début, on les rejette. Ils sont ce que l'on ne veut surtout pas être. Et puis, on accepte de les rencontrer. On se sent vite en harmonie avec eux, on reprend confiance en soi, à des activités que l'on ne connaissait même pas, on repart vers une autre vie.
Michel a 65 ans. Il porte un gilet gris-perle sur une chemise anthracite. Il a un visage doux, des cheveux clairsemés coiffés en arrière. Sa main qui danse accompagne discrètement la ligne mélodique.
Alexis est le chef, entre guillemets. Il habite à Cormeil. Et donc nous avons par la mairie une petite salle où tous les 15 jours à peu près on se retrouve et on chante. Et donc depuis pas mal d'années, et puis un jour il est arrivé Anne-Laure. Alors Anne-Laure ne disait pas grand chose. Mais quand on chantait, il chantait bien, juste, etc. Et au fur et à mesure, chaque fois que je lui téléphone, je viens te chercher, oui, non, parce qu'il y avait pas mal de noms, des oui, des non. Mais quand elle vient, moi je suis content de passer la voir à sa trouille.
Anne-Laure a de grands yeux verts. Une coupe courte encadre son visage au nez droit, aux lèvres pulpeuses. Elle est maquillée avec soin, porte un joli gilet blanc. Elle nous regarde franchement, avec douceur. Derrière un voilage, le ciel se teinte d'encre. Deux amaryllis roses inclinent leur corolle épanouie sur un aquarium. Des papiers débordent d'une corbeille, des boîtes renferment des dossiers, des flacons sont rangés dans un panier. Une lampe de luminothérapie et les micros sont posés sur la table. Un jeune chat voyage dans l'appartement et joue avec tout ce qu'il trouve.
Je m'appelle Anne-Laure Prigent. J'ai fait un AVC il y a 3 ans de ça. J'avais 25 ans. Je travaillais comme professeur des écoles. Maintenant, je ne peux plus. L'enseignement, c'est foutu. La parole me manque et j'ai une hémiplégie droite. Mon monde s'est écroulé. J'avais plus de reconnaissance professionnelle. Mon copain m'a quittée. Quelques amis sont partis. Ça m'a fait un choc. J'ai repris le dessus. L'orthophonie, pour moi, c'est un leitmotiv. J'avais une licence de lettres modernes. Le discours, l'écrit, c'est important pour moi. Et j'ai le courage de conquérir ma parole. Ça fait 2 ans que je vais au GAIF. J'ai des amis, mais c'est particulier au groupe de chant. On rencontre les aphasiques, on est pareil. Hein, on a subi le même choc. Le groupe d'aphasiques de chant me donne du courage, de l'entrain. C'est des personnes extraordinaires par la volonté. Et c'est devenu mes amis. On rigole. On est plus à l'écoute. Alexis, il parle peu, mais il a un site internet. Il écrit dans un journal. Ça donne du courage. Je m'entends bien avec Michel. Il joue pas le jeu de la chanson. Il détourne vers quelque chose d'abstrait. C'est l'imaginaire. C'est un endroit utopique. Et Elisabeth est un bon professeur de chant. Elle est à l'écoute. Elle est solaire. Ouais.
Alors, je m'appelle Elisabeth. Ce que je fais, ma profession, c'est donc artiste lyrique. Il s'est trouvé donc que mon frère Michel a eu un AVC et s'est retrouvé aphasique à la suite de cet AVC. Et c'est seulement plusieurs années après que, lui-même ayant rejoint le GAIF, les activités spécifiques de cette association, a été amené à me contacter parce que Alexis cherchait à fonder un groupe sur Cormeilles en Parisie, pour des raisons géographiques, tout simplement. Et j'y suis allée.
Derrière ses lunettes cerclées de métal, elle suit attentivement la partition posée devant elle. Les participants sont assis avec elle tout autour de la table. Michel, Anne-Laure, Geneviève, Kader, Toshi et Francis. Une bouteille de jus d'orange voisine une couronne d'épiphanie. Les murs sont jaunes, l'ambiance est douce. Alexis est aux commandes de la musique avec l'ordinateur.
Certains jours, je me dis que c'est surtout une question de présence, du fait qu'on se retrouve, qu'on est content de se retrouver, de passer un bon moment. J'ai tenté parfois de glisser des petites considérations techniques ou des petits exercices et tout, et j'ai assez vite senti que c'était pas ça qu'ils attendaient. Je crois que j'ai ressenti assez vite que ces séances étaient avant tout des moments privilégiés pour eux de se retrouver entre eux, justement, hors de tout contexte d'évaluation ou de jugement. Et c'était vraiment une question de convivialité. La façon qu'a Alexis d'apporter à boire des petits gâteaux, et puis un autre jour, c'est Anne-Laure qui va faire un gâteau, ce genre de choses. Et puis Geneviève qui va apporter une fleur pour ma maman, qu'elle a vue une ou deux fois aux assemblées générales du GAIF. Et il y a une espèce de rituel qui s'est installé. Malgré sa grande difficulté à s'exprimer, elle arrive à faire passer des messages. Je sais pas, quelque chose d'instinctif ou de question de sensibilité qui m'a suggéré de laisser faire ça. J'ai très très vite renoncé à mettre en place un programme quel qu'il soit, un protocole quel qu'il soit, et Je me vis plus comme une forme d'accompagnement, mais c'est le... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un catalyseur? Quelque chose comme ça. J'ai compris aussi que ce dont ils avaient le plus besoin dans des moments comme ça, c'était qu'on les encourage, ne serait-ce que par la présence, à se lâcher. C'est comme une espèce de petit rappel permanent, pour moi en tout cas, que tout le monde est capable. Il n'est pas question que je m'arrête une seconde aux impossibilités. Mais il n'est pas question non plus que je fixe un objectif de qualité, de vitesse, de quoi que ce soit. Et après, c'est beaucoup une question d'écoute. Parce qu'en quelque sorte, moi, je me mets en écoute. C'est mon identité musicale, musicienne. Et je me mets en écoute. Et j'ai bien sûr, le regard est là aussi. Mais c'est comme si, pour une fois, il obéissait à l'oreille. C'est comme si mon être tout entier est à l'écoute. Ça c'est, pour moi, c'est très, très différent. Parce que, alors, encore une fois, le lâcher prise est de meilleure qualité. Je pense.
Je vis au jour le jour. Oui. Je suis dans l'entretemps. Ça fait 2 ans que je m'en sors tant bien que mal. Mais j'ai des envies professionnelles. J'aimerais être animatrice sociale en gériatrie ou enfant paralysé. Je ne suis pas dans un état dépressif, les personnes qui souffrent, je connais la souffrance, la dégringolade, et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'apporte du réconfort aux personnes âgées, aux enfants malades. J'apporte le dynamisme et je prends le temps de la personne. D'accompagner une personne, c'est le but ultime.
Après un AVC, l'art de contourner les mots de l'aphasie. Avec les participants aux ateliers, Anne-Laure, Geneviève, Michel L, Alexis, Michel R, Gilbert. Les médiateurs, Christine Zwingman, atelier danse, Claudine Vuillermet, atelier écriture, Elisabeth Lagneau, atelier chant, Manuel Lambinet, atelier théâtre. Voix et audio description, Séverine Skirski. Réalisation, Gilles Mardi-Rossian. Attaché d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Coordination, Irène Omelianenko. Avec le soutien de la SCAM, Brouillon d'un rêve. Un documentaire de Gilles Mardi-Rossian pour Sur les docks.